Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Ce jour-là, l'armée rouge étant captive et désarmée, les troupes nationales ont atteint leurs objectifs militaires. La guerre est finie. Le communiqué est laconique, il est signé de la main du général Franco, le 1er avril 1939. Cette guerre civile aura duré près de 3 ans, contraignant un demi-million de personnes à l'exil au début de l'année 39. Et si elle est finie, comme le proclame celui qui l'avait déclenchée, c'est une bien étrange paix qui s'abat sur le peuple espagnol, prisonnier de ses frontières, de son caudillo et d'une armée qui se comporte comme une force d'occupation en territoire ennemi. Une paix exorbitante également dont le prix se chiffre en centaines de milliers de victimes civiles et militaires. Et en ce mois d'avril 39, le camp des vaincus est bien loin d'avoir fini de payer. Le peuple espagnol est désormais divisé entre vainqueurs et vaincus, et cet antagonisme demeurera le ciment idéologique d'une dictature féroce qui ne s'effondrera qu'avec la mort de son vieux chef près de 40 ans plus tard, en 1975. Bon nombre d'Espagnols n'attendront pas cette date pour quitter le pays. Pour certains, ce sera de manière clandestine, au lendemain d'une guerre qui les aura séparés d'un père, d'un mari, voire d'une famille entière. Et pour d'autres, ce ne sera que lorsque le caudillo autorisera finalement son peuple à fuir la misère économique dans laquelle il l'aura maintenu. Pour tous, le souvenir des années de répression reste évidemment vif et douloureux.
J'ai vécu dans cette période très dure en Espagne. Là-bas, on dit toujours la répression de l'intérieur.
Emilio Valls, né à Barcelone en 1924, fils d'un soldat républicain réfugié en France en 1939, qu'il rejoindra clandestinement 6 ans plus tard à la faveur d'une désertion.
Bon, alors, cette répression a duré. Et tellement que c'était en 45. Avant que je parte, non, en 44. En 44, j'étais payé dans une laiterie très importante de Barcelona. J'ai fait le transport avec un chariot, tout Barcelona. Nous faisions aussi le lait pasteurisé. Et là, il y avait un monsieur qui, tout le matin, on le voyait arriver avec un pot, la main, un pot de lait, et il sympathisait pas mal avec le contremaître. Et un bon jour, moi, j'étais pas loin. Et j'ai entendu. Tu sais qui est en train de raconter ces messieurs à notre contremaître. Il disait, oui, moi, tous les jours, c'était en 44, fin 44. Tous les jours, j'accompagne ceux qui doivent être fusillés au campo de la Bota. Et c'est horrible. C'est horrible parce que là, on voit quand on les met alignés en face à la dans le sable, davant de la mer. On voit le comportement de chaque persona. Et il y a des choses terribles. Bon. Et il était un chef de la police, cet homme. On l'a su. Voilà. En 44. Mais, en 45, c'était pareil. Et en 46, c'était pareil. Il y avait des gens fusillés tous les jours. Parce que ils étaient républicains. Alors, évidemment, on a eu la chance, parce que si on ne trouvait pas le responsable, on prenait toute la famille. Nous, par hasard, personne, certainement, ne nous a pas dénoncé. Donc, on s'est sauvé comme ça. On a passé toute la guerre, l'après-guerre. Hein? Et nous connaissions beaucoup de monde qui disparaissait.
A Franco y a sus soldados en el cuarto aniversario de la victoria que liberó a España y que, después de vencer en una cruenta guerra, supo dar a la patria su unidad, libertad y grandeza.
Y había de miles y de miles de soldados armados, todo de Cartier, la Guardia Civil movilizó a fondo, y en plus, había la Guardia, los grises, que c'était un corps militaire. Et alors, évidemment, si jamais dans la rue, il passait des soldats, et il y avait une musique militaire, il fallait s'arrêter. Là où on était, et la salut fasciste.
Je me dissimulais en faisant un lacet sur mes espadrilles. Enfin, c'était visible qu'on était domestiqués, quoi. Ça se voyait, ça. C'était horrible, horrible la répression.
Je m'appelle Jean Serra, je suis né à Barcelone, en Espagne, donc en 1954. Ma famille n'a pas fait d'actes spécialement héroïques dans la guerre d'Espagne, mais mon père a été mobilisé côté républicain. Ma famille est plutôt de sensibilité de gauche. Mais mon père, lorsqu'il a été mobilisé, avait 17 ans, donc je pense qu'il n'a pas eu le temps de se poser des questions. J'étais de suite concerné par la guerre d'Espagne, beaucoup par le récit de mes parents et de mes grands-parents. C'est les petites histoires et la transmission des émotions autour de la guerre, de la peur, du franquisme, de l'après-guerre qui a été décrite par ma famille comme d'une certaine façon plus violente et plus dure que la guerre elle-même. Et puis des bouts de phrases, de bouts de communication, peu et avec peur. Mais j'ai des images, par exemple, de mon père écoutant la BBC avec une couverture sur la tête, comme s'il faisait des inhalations, écoutant aussi Radio España Independiente, qui était une radio du Parti communiste qui émettait à partir de Toulouse. Il y avait peu de commentaires autour de ça, avec la crainte que, étant enfant, on puisse parler un peu trop à l'extérieur et du coup être l'objet de représailles sérieuses des franquistes. En même temps qu'on recevait des informations, on recevait le message subliminal implicite qui disait « attention avec ça ». Terrain miné, on ne parle pas de ça à tout le monde. Je me souviens qu'une fois, j'étais revenu avec des pamphlets dont j'ignore encore le contenu, je devais avoir 8 ou 9 ans. Sans doute, j'étais activement par un syndicat ou un parti politique clandestin. Et je me souviens de la peur visible dans les yeux de mon grand-père quand il a pris tous ses papiers. Il disait, ne ramassez jamais plus de papiers comme ça, quand il les a cramés consciencieusement, un à un, dans un petit instrument en terre cuite qui lui servait de temps en temps de barbecue. Je pense qu'on était dans un défi d'assemblage en kit d'éléments épars. Mais que ce que l'on recevait était plutôt des sensations, des perceptions intersubjectives, émotionnelles fortes. Mais j'ai l'impression qu'à partir de 12-13 ans, c'était très clair qu'il y avait arnaque. Jusqu'alors, bon, un enfant a d'autres chats à fouetter et ma famille n'a pas essayé de m'assommer avec ça. Elle a surtout survécu et essayé d'améliorer un petit peu son sort. Peut-être qu'il y avait des familles qui avaient une option plus courageuse qui était de parler de tout et d'affronter davantage le franquisme. Ma famille n'était pas de cela. Ma famille a cherché à ne pas faire de compromis, mais à survivre et à ne pas se mettre dans le champ de tir des franquistes quand même. Mais bon, ils n'avaient jamais eu d'activité organisée avec un parti politique, donc ils n'ont pas fait l'objet de persécutions ciblées de la part des franquistes, sauf mon père donc, qui a été pendant 6 mois en camp de concentration et pendant 3 ans donc, après le camp, mobilisé dans des bataillons franquistes. Donc dans les Pyrénées. En tout, ça lui a mangé 6-7 ans de sa vie. Et à 85 ans, un an avant de mourir, il a eu 937 euros en guise de reconnaissance pour le bon gelé au service. Mais pour lui, c'était très important. Ce n'était pas les 937 euros en une seule fois. C'était la lettre qui l'accompagnait, qui nommait la souffrance reçue et sa situation de victime d'une situation.
J'ai été élevé par des femmes. J'ai été élevé par des femmes puisque les maris étaient au front ou certaines sont morts. Mon père était réfugié.
Pierre Villa, né en 1937 dans la province de Lorca, fils d'un commissaire politique de l'armée républicaine, réfugié en France en 1939, dont il ne fera la connaissance qu'à l'âge de 10 ans, lorsque lui et sa mère le rejoindront clandestinement.
Dans la famille, on portait le deuil de cette république. Et moi qui étais toujours dans les jupes, j'écoutais les conversations des adultes, tout ça. Donc j'étais un enfant sage qui écoutait. Alors on avait des humiliations dans la famille. Alors là, l'appellation après Franco, tout le monde, tout ce qui était républicain, était rojo, rouge. Mon père était socialiste, on était tous socialistes, mais au sens de ses filles de l'époque. Et mon père était très jeune, il avait été adjoint au maire, donc à 22 ans, il était tout un fougueux. C'est-à-dire, si mon père était rentré, il était fusillé. Et à l'école, j'avais des petites vexations. Et même un instituteur, une fois, il m'a giflé parce que j'étais fille de rouge. Et ça, je veux pas le... Et tous les matins, à l'école, on commençait par saluer le drapeau fasciste, d'un coup. Et puis, on chantait l'hymne franquiste, c'était un face au soleil, les nouveaux horizons lumineux franquistes. Et donc, j'étais très avancé dans les études, de sorte qu'à 8 ans, on a fait une demande de dispense pour entrer en 6e, puisque c'était 10 ans, et en demandant une bourse. Jamais de réponse. On ne donne pas une bourse, et une dispense, c'est un fusil de rouge.
Dans l'école et dans le collège, on avait des cours de ce qui s'appelait formation de l'esprit national, formation de l'esprit national, qui était assurée par des phalangistes, par des franquistes rigoureux, plus le curé, qui était même des vaillants représentants du système franquiste, en très grande majorité en tout cas. Mais dans mon entourage immédiat, il n'y a pas eu de phalangistes affichés en tant que tels qui auraient mené la vie dure aux autres. Je n'ai pas vécu ça. Sans doute que ça a existé. C'est pas sans doute, ça a existé. Plus tard, donc assez récemment, en menant une recherche photographique dans l'Aragon, je sais que dans tous les villages, il y a eu des exécutions après. Bien après la fin de la guerre, et que tous les bas-côtés des routes d'Aragon sont jalonnés de morts. Il y a des gens qui ont eu des représailles directes, et je sais aussi qu'il y a eu des femmes tondues, qu'il y a eu des gens humiliés, qu'il y a eu des gens persécutés, qu'il y a eu des gens qui ont reçu des coups de façon insistante et répétée. Quand je dis des coups, c'est un euphémisme de la part de la Guardia Civile, qui pendant longtemps a été plus que franquiste. Donc, dans tous les villages d'Aragon, ici, il y en a 10, là-bas, il y en a 50, là, il y en a 3, là, il y en a 100, là, il y en a 200. Il y en a des quantités incroyables. Tués par des... avec la loi de fugas, qui s'appelle la loi de fuite. La loi de fuite était un modèle où la police a attrapé quelqu'un de façon plutôt arbitraire. Je suis même que quelquefois, ils se sont trompés, ils ont attrapé des franquistes, mais bon, peu importe. Ils attrapaient quelqu'un, ils le secouaient un peu, hein, et puis au bout d'un moment, ils lui disaient, bon, ben, tu peux partir. Et quand l'autre partait, il lui tirait dans les dos et il faisait un rapport comme quoi il avait essayé de fuir. C'était la loi des fugas.
Quand mon père a manqué, ça a été vraiment la famine.
Julio Nogales, né en 1927 dans la province de Valencia, fils d'un artisan fusillé dès les premières semaines de la guerre par les franquistes, réfugié en France depuis 1946.
Mes frères ne trouvaient pas de travail parce que étant des enfants des communistes, soi-disant, parce qu'on était catalogués comme communistes, on ne nous donnait pas de travail, alors un travail que les autres ne voulaient pas en faire. Étant donné que les villages ont été tout de suite... du côté des Franco, pour nous, qu'on était catalogués comme communistes, c'était vraiment une souffrance parce que les gens ils scandaient des chants envers Franco, ils vivaient ceci, ils vivaient cela, et mort aux communistes, pour nous, les enfants qu'on avait souffert de ce côté-là, c'était encore une souffrance atroce qu'on se disait, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter tout ça? Quand ils chantaient Cara al Sol, con la camisa vieja, et tous ces gens-là, je ne les saurais jamais par cœur parce que je me refusais à les chanter, mais c'est quelque chose que vous n'oubliez jamais. Et puis, quelquefois, lorsqu'on nous regardait, quand il y avait ce défilé, parce qu'il y avait un défilé pour montrer la force de l'armée, on nous regardait à nous dans les villages et on nous disait « Ah, toi, communiste !» Alors, il fallait encore baisser les yeux et partir à la maison, comme si on avait regardé un petit chien qui avait la gale. Et tout le monde, il fallait faire lever la main vers Franco. Si vous ne leviez pas la main lorsque les drapeaux espagnols et allemands, vous étiez déjà catalogués. Mais je vous dis, c'était une misère très, très profonde. Et heureusement qu'on a eu des gens qui ont eu presque pitié de nous, du voisin, qu'en cachette. Ils nous portaient quelque chose à manger parce que ma mère, avec cet enfant, ne pouvait pas. Heureusement qu'on avait d'autant. Eux, leur mari travaillait, bien qu'ils avaient pas mal d'enfants, ils arrivaient à nous donner quelque chose pour qu'on ne meure pas de faim.
Moi, mes parents sont nés en 30, 1931 et en 1933. Donc enfant pendant toute la période de la guerre civile.
Antonio Rodriguez Yuste arrive en France en 1966, âgé de quelques mois.
Eux, ce qu'ils m'ont transmis, c'est surtout l'après-guerre. C'est-à-dire leur histoire, à eux, de l'après-guerre, où c'était très dur. C'est des gens qui n'ont quasiment pas connu l'école. En Extrémadour, une des régions justement les plus pauvres d'Espagne, où il y a eu un exil économique très très fort. Donc oui, c'était des conditions de vie très dures. Pas de courant, pas d'électricité, une région agricole, un travail manuel et physique très important. Les enfants, moi ma mère a commencé à travailler à l'âge de 10-12 ans. C'est-à-dire à 10-12 ans, ils étaient placés dans des familles qui les employait comme boniche, de tout le ménage, laver le linge, faire des kilomètres avec du linge sur la tête pour aller jusqu'à la rivière. C'est des vies très très dures, quoi. Très très dures physiquement et très humiliantes, quoi, aussi. Mes parents m'en ont peu parlé quand j'étais enfant, ils m'en ont parlé plus tard. Ils n'avaient pas les données politiques, économiques. Eux, ils ont simplement fait le constat à un moment donné, en 66. La vie sur place n'était plus possible. L'avenir qu'ils pouvaient donner à leurs enfants était infime. Et la solution, c'était aller voir ailleurs. Et c'est comme ça donc qu'ils sont arrivés en France. Et c'est des gens qui étaient peu politisés, peu au fait des événements politiques en Espagne. Ils étaient peu au fait de la situation économique de l'Espagne. Ils étaient dans leur... dans leur quotidien, quoi, dans leur vie. C'est des gens de la terre, quoi. C'est des agriculteurs, des gens qui vivaient au jour le jour, quoi, aussi. Et qui savaient ce que voulait dire il faut qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on va manger, il n'y a rien à manger. Donc, ils n'avaient pas une réflexion sur la dictature de Franco. Pour eux, il y avait des hommes, il y a eu cette guerre, il y avait des hommes, il y avait un camp d'un côté, un camp de l'autre. Il faut savoir que dans ces villages, il y a des gens qui se sont retrouvés enrôlés d'un côté ou de l'autre, sans savoir exactement où ils allaient. Hein. Ils se sont retrouvés à un moment engagés avec les républicains, ils ne savaient pas où ils étaient. Engagés avec les franquistes, ils ne savaient pas non plus ce que ça voulait dire. On les a embarqués là-dedans et puis ils y sont allés.
Les années du franquisme, surtout à partir des années 60, hein, ont coïncidé, comme partout ailleurs, avec des périodes qu'on appelle ici en France les 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des villages où il n'y avait pas le courant, et il n'y avait pas de route goudronnée, il n'y avait pas le frigo, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, rien. Et bien sûr, même sous Franco, il y a eu quelques progrès économiques. Et les gens ont associé un certain bien-être économique avec l'avenue de Franco, ce qui n'avait strictement rien à voir, au contraire. Les gens ont commencé à penser que Franco garantissait donc à la fois un progrès social et un ordre social. C'est comme partout, hein, ça demande un peu de temps et de complexification pour montrer aux gens que c'est pas Franco qui a fait avancer l'économie de l'Espagne, et bien sûr pas le franquisme, et que l'ordre et la sécurité étaient un ordre et une sécurité surfait. Je suis venu en France en octobre 72, Franco est mort en 75, j'étais déjà ici, ça a été à la fois, je ne cache pas, une joie importante, et tout en se disant que ce n'était pas juste qu'un tel tortionnaire et qu'un tel criminel meure tranquillement dans son lit. Je suis des choses assez curieuses, je sais que les hôpitaux, pendant, Franco a été hospitalisé pendant longtemps et a reçu des soins qui paraissait assez obscur, mais apparemment il recevait sans arrêt des transfusions sanguines. Et je sais que pas mal d'hôpitaux ont dû lancer un appel parce qu'il y avait des donneurs qui n'allaient plus donner du sang de peur qu'ils servent à Franco. Je trouve que c'est quand même une façon de réagir qui en dit long sur le ressentiment vécu. Je sais que dans beaucoup aussi d'épiceries de quartier, on ne trouvait pas une seule bouteille de ce qui pouvait s'apparenter de près de loin au champagne quand Franco est mort. Donc je suis des choses comme ça qui en disent long sur la... le fait que les gens n'oublient pas et que c'est très difficile de gagner une guerre de façon violente comme ça. Le ressentiment reste et là, actuellement, encore aujourd'hui, et peut-être à nouveau se joue d'une certaine façon la suite du franquisme avec une guerre de mémoire.
Españoles, Franco a muerto.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations.
Avec Emilio Valls, Jean Serrat, Julio Nogales, Pierre Villa et Antonio Rodriguez Yuste. Témoignage recueilli par Raymond Robert Colbert et Manuel Plaza. Musique originale Guillaume Séguron, un documentaire de Manuel Plaza, Divergence FM. Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de trois générations, une série coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, direction de la culture et du patrimoine.